RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel, 23h à Gaza.
Christophe Paget.
Ce samedi, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Au début de ce journal, nous entendrons des paroles de palestiniennes qui ont tenu à célébrer cette journée, malgré la situation critique dans les territoires. En Syrie, le bilan s'est encore alourdi. 745 civils de la minorité religieuse alaouite ont été tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et leurs alliés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des forces de sécurité déployées pour combattre des fidèles du président déchu Bachar al-Assad. Et puis en Allemagne, on se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz ont annoncé un accord de principe avec les sociaux-démocrates du SPD, le centre-gauche. Journée internationale des droits des femmes ce samedi, nous sommes le 8 mars, des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde. À Madrid, plusieurs milliers de personnes ont ainsi manifesté sous une pluie battante pour réclamer une égalité réelle, pas de pacotille. Plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, 120 000 à Paris, 250 000 en région selon le collectif Grève Féministe. La préfecture de police parle, elle, de 48 000 manifestants à Paris. Ce soir, la Tour Eiffel arbore un message de soutien aux femmes afghanes en français, en anglais, en farsi et en arabe. Et des Palestiniennes ont tenu à célébrer, elles aussi, cette journée, malgré la situation critique dans les territoires palestiniens. Alors que Gaza est à nouveau sous blocus humanitaire depuis une semaine et qu'une opération militaire israélienne est en cours en Cisjordanie occupée, elles ont profité de cette journée pour faire entendre leur voix. Depuis Jérusalem, Amira Swilem les a écoutées.
La rencontre débute avec un petit film qui plante de suite le décor. La femme qui s'exprime s'appelle Atef Mahmoud, elle vit à Jenin.
Un de mes fils a été tué par les Israéliens. Il n'est pas arrivé à temps à l'hôpital, il est mort en y arrivant. C'est ce qui m'a motivée à apprendre les gestes de premier secours.
Depuis, elle a formé d'autres femmes aux gestes qui sauvent. En ce 8 mars, journée des droits de la femme, ces Palestiniennes ont voulu donner un aperçu de leur quotidien et montrer aussi qu'elle reste debout.
Et maintenant, nous saluons les femmes de Gaza qui sont avec nous. Elles nous donnent la force de tenir.
Assises sur des chaises en plastique, plusieurs Gazaouis se relaient alors pour prendre la parole. Leur souhait est de réussir à recréer progressivement une société civile en mesure d'aider à panser les plaies des femmes de Gaza.
On a bien conscience que notre aide est une goutte d'eau face aux besoins importants qui existent. Il y a de nombreuses femmes qui essayent de retrouver leurs enfants actuellement. Certaines n'ont pas d'informations à leur sujet. Ils ont été séparés, les enfants ont pu être déplacés. Alors est-ce qu'ils sont vivants ou pas? Ce sont à ces défis importants que sont confrontées certaines femmes.
Cette prise de parole retransmise sur les réseaux sociaux et traduite en anglais a duré plus de 3 heures, signe que ces Palestiniennes avaient un grand besoin de parler et d'être écoutées. Amira Swilem, Jérusalem, RFI.
Le Hamas évoque des signaux positifs pour le début des négociations de la deuxième phase de la trêve avec Israël dans la bande de Gaza. Les discussions continuent au Caire en Égypte avec les médiateurs égyptiens et qataris. La première phase du cessez-le-feu s'est terminée le 1er mars et la trêve reste fragile en raison de désaccords entre le mouvement islamiste palestinien et Israël sur la suite du processus. Pendant ce temps, en Israël, plus de 50 ex-otages du Hamas à Gaza, ainsi que des familles de captifs, ont appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à un accord de cessez-le-feu complet avec le Hamas pour permettre la libération de tous les otages détenus. En Ukraine, ces derniers jours auront été marqués par différentes annonces de Washington, la fin des livraisons d'armes à Kiev par les États-Unis, la suspension par le renseignement américain de leur collaboration avec l'armée ukrainienne et les renseignements ukrainiens. Washington veut forcer la présidence ukrainienne à accepter ces conditions avant d'éventuelles discussions avec Moscou. Pendant ce temps, l'armée russe ne semble pas vraiment progresser, ou alors très lentement, même si Moscou accentue la pression sur Kiev avec des bombardements intensifs. Alors, est-ce que ces annonces américaines ont un impact sur les différents fronts? Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de la newsletter et du site Desk Russie.
Sur le déroulé des opérations, l'impact pour l'instant est assez faible parce que les Ukrainiens disposent des moyens de se défendre. Ils ont eux-mêmes d'ailleurs lancé une fabrication de drones absolument remarquable. Ils sont même la première nation en termes technologiques aujourd'hui dans cette industrie. Ils préparent également la fabrication de missiles qui seraient effectivement très efficaces. Donc il n'y a pas de défaitisme à avoir. En revanche, il est vrai que pour pour les populations civiles, la collusion entre les Américains et les Russes, évidemment, est extrêmement difficile, puisque avec la coupure de ces informations militaires, ça rend beaucoup plus aisé pour les Russes de lancer des attaques contre les civils. Mais là aussi, la situation est loin d'être désespérée. Les Français et les autres alliés européens vont réussir à pallier cette déficience américaine aujourd'hui. Et donc, on n'est pas du tout dans une situation de défaite où les Ukrainiens seraient obligés de se rendre.
Nicolas Tenzer, joint par Romain Le Maresquier. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 745 civils alaouites ont été tués depuis jeudi par les forces de sécurité syriennes et leurs alliés. Le bilan s'est encore aggravé. Des forces de sécurité déployées pour combattre des fidèles du président déchu Bachar al-Assad dans l'ouest du pays. Les autorités affirment vrai à ramener l'ordre dans la région. Paris a condamné avec la plus grande fermeté les exactions qui ont frappé des civils sur une base confessionnelle et des prisonniers et a appelé les autorités syriennes intérimaires à s'assurer que des enquêtes indépendantes soient menées. RFI, 16h06, à Port-au-Prince. En Haïti, toujours saigné par les gangs armés, Fritz Alphonse Jean a pris officiellement les commandes du Conseil présidentiel de transition. Il succède à Leslie Voltaire, dont le mandat de 5 mois est arrivé à terme sans concrétiser ses promesses, notamment celle de reprendre le contrôle d'au moins une route nationale. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la Villa d'Accueil, à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Costume bleu, chemise blanche, cravate rouge, Fritz Alphonse Jean, accompagné des autres membres du CPT, reçoit les honneurs et les accents solennels de la fanfare du Palais National. Dans son tout premier discours, le nouveau chef du CPT met l'accent sur les conséquences désastreuses de l'insécurité en Haïti.
L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes.
Si Edgar Leblanc-Fils et Leslie Voltaire, qui ont déjà dirigé le CPT, n'ont pas tenu leur promesse de ramener le calme dans le pays, cela n'empêche pas Fritz Alphonse Jean d'en faire à son tour. Comme ses prédécesseurs, il a fait de la question de sécurité son cheval de bataille.
La sécurité est notre plus haute priorité. Notre pays est en guerre aujourd'hui et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. Est-ce pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre?
Plus loin, Fritz Alphonse Jean annonce aussi un renforcement des forces armées et de la police nationale avec le recrutement de 3000 nouveaux agents dès cette année. Reste à savoir si cette fois, les paroles seront suivies d'actions concrètes. Environ une année après son installation, le Conseil présidentiel a pratiquement passé outre de ses principales missions. Entre-temps, les gangs armés continuent d'étendre leurs tentacules dans la capitale et dans certaines villes de province. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Direction maintenant l'Argentine, où des pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts hier à Bahia Blanca, 600 km au sud de Buenos Aires. En quelques heures, cette ville de 350 000 habitants a reçu l'équivalent de 8 mois de précipitations. Et selon les autorités locales, c'est du jamais vu. Correspondance Théo Conscience.
À peine 2 heures après les premiers coups de tonnerre vers 5 heures du matin hier, la ville portuaire de Bahia Blanca était déjà sous les eaux. Les images de télévision montrent des habitants réfugiés sur le toit de leur maison. Dans les rues inondées, voitures et troncs d'arbres arrachés sont emportés par le courant. Les services de train et de bus sont suspendus et l'aéroport local fermé jusqu'à nouvel ordre. À l'hôpital José Pena, le plus important de la ville, l'unité de soins néonatales a été inondée et des images rapidement devenues virales montrent des infirmières sortant les bébés de leur couveuse pour les évacuer dans leurs bras. Sur les réseaux sociaux, des habitants désespérés publient nom, adresse et appel à l'aide. Le gouvernement a envoyé l'armée pour prêter main forte aux secours locaux et débloquer une aide d'urgence de 10 milliards de pesos, environ 8 700 000 euros. Les ministres de la Sécurité et de la Défense sont sur place. Pour l'heure, les pluies ont cessé, plus de 1 300 personnes ont été évacuées et le bilan provisoire de 10 morts pourrait encore s'alourdir. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Allemagne, on se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz, arrivé en tête des dernières élections, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de principe avec les sociaux-démocrates du SPD, le centre-gauche. La semaine prochaine, ce sont les négociations détaillées qui doivent commencer. Ces discussions sont très suivies par les voisins européens de l'Allemagne qui souhaitent que le pays joue un rôle plus important en matière de sécurité et de défense. Le continent se mobilise pour réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. En rugby, la France a triomphé de l'Irlande à Dublin, et ce malgré la perte de son capitaine Antoine Dupont, blessé au genou dès la 29e minute. Le score 42 à 27, la France passe donc à la première place du tournoi des 6 nations. Prochain adversaire, l'Écosse, ce sera la semaine prochaine. RFI, 22h10 à Paris, 21h10 en temps universel. La suite de l'actualité sur RFI, c'est dans 50 minutes.